Alors, je reviens. OK, on parlait des preuves fournies par l'anatomie comparée. Donc, on a dit que ça peut être interprété d'une oui. autre façon. OK. Oui. Bon, maintenant, je reviens à un argument supplémentaire, les imperfections de la nature.
Oui.
Les organes vestigiaux, tout comme le squelette de la nageoire des baleines, je cite encore M. Barrette, sont des imperfections de la nature. Leur existence n'est explicable qu'en termes de fardeau historique dont les espèces actuelles ont hérité. Ces imperfections constituent donc des preuves de l'évolution. Moi, en tout cas, ce que j'y lis, c'est ces imperfections constituent donc la preuve que le monde n'a pas été créé par un être parfait. Je veux dire que c'est encore à l'air.
Ouais,
là. Dans le fond,
disons,
il dit
là,
pas comme ça.
C'est,
là,
le fond de c'est le fond de l'argument. Là. Puis d'ailleurs, on le retrouve aussi dans le livre de Stephen Jay Gould, The Panda's Thumb, là, le pouce du panda. Là. Je ne sais pas le terme précis pour la version française, là, mais c'est l'argument de fond là, de Stephen Jay Gould, là, qui a développé beaucoup plus longuement que celle-là. Là, que il y a deux façons d'aborder la chose. D'abord, il y a une interprétation là, de qu'est-ce qui est imparfait. Qu'est-ce qui peut nous sembler imparfait, puisqu'on a peut-être certaines attentes lorsqu'on examine une structure, par exemple, des ingénieurs qui vont faire un pont. Et puis, il y a peut-être une équipe d'ingénieurs qui va regarder un problème puis vouloir le résoudre d'une certaine façon. Une autre équipe d'ingénieurs va arriver puis vont dire, ils vont dire, ben là, votre design il est défectueux, là, il n'est pas bon pour X, Y raison. Et puis, ça peut être un... Mais ça peut être possiblement cette critique-là peut être justifiée, mais aussi ça peut être un argument qui est fait sur par l'ignorance. En d'autres mots, que les ingénieurs qui critiquent la première équipe peuvent ne pas se rendre compte qu'il y a certaines contraintes que les ingénieurs auxquels ils ont été confrontés puis qu'ils devaient attaquer, et ce qui a fait qu'ils ont abordé la question d'une manière différente que la deuxième équipe d'ingénieurs. Ont abordé qui devaient évidemment ignorer ces conditions-là.
Donc,
ce qui peut leur sembler imparfait, finalement, est quelque chose qui vise un but très précis et puis qui va fonctionner très bien dans ce contexte-là.
Donc, on pourrait dire que lorsqu'on est en train de regarder le travail d'un autre,
il oui.
faut peut-être avoir un petit peu d'humilité.
Ouais,
ne pas penser qu'on... que nous, on est en état de juger de l'ensemble de la situation.
Ouais, ouais.
Dit, de laisser une place au...
Oui, mais un autre aspect de la chose, pourtant, aussi, là, même si on part, par exemple, d'une version des... Si on change un peu de faisceau, on met des lunettes, plutôt que d'avoir les lunettes matérialistes et évolutionnistes, on met des lunettes qui nous fournissent le récit de la Genèse. Le récit de la Genèse nous dit que, bon, le monde a été créé parfait, mais qu'on vit dans un monde déchu, un monde qui n'est plus dans la perfection, un monde qui est détraqué d'une certaine façon et puis qui ne fonctionne pas comme il est supposé. Donc, il est totalement possible de retrouver des structures ou des organismes qui ne fonctionnent plus selon le plan original. On retrouve, par exemple, des exemples d'organismes qui vivent en symbiose, où est-ce que c'est que les relations, les uns apportent quelque chose à la relation, et soit des plantes ou encore des organismes vivants, des insectes, et puis, mais il y a aussi il est possible qu'il y ait des relations qui étaient originalement en symbiotique, qui étaient mutuellement favorables aux deux, sont devenues parasitiques, qu'il y a juste un des organismes qui profite, et puis l'autre, il sert juste de hôte au deuxième organisme, et puis il n'en retire rien. Donc, pour les gens qui ont une interprétation créationniste là, des données qui nous entourent, bien, c'est ça, ces exemples-là sont compréhensibles en termes d'une création qui est déchue, une création qui est déstabilisée, qui ne fonctionne plus comme il était conçu pour fonctionner. Donc, ça, c'est totalement cohérent avec cette conception-là.
OK, j'ajoute un autre de ces arguments. Les preuves moléculaires et les preuves génétiques. Je cite un endroit. Malgré cette immense diversité, tous ces organismes présentent une remarquable unité de structure et de fonction au niveau génétique et moléculaire. Ils portent tous les mêmes acides nucléiques, les mêmes protéines, les mêmes éléments de base, acides aminés entre autres. Leurs gènes sont tous des formes de la même molécule d'ADN. Le code génétique est le même. Les mêmes enzymes interviennent dans des réactions semblables pour tous. Encore une fois, je cite toujours M. Barrett, encore une fois, ou bien le créateur a été capable d'inventer des millions d'espèces différentes, mais n'a pu créer qu'un seul code génétique et une seule série d'acides aminés qu'il a donné à tout le monde, ou bien le fait que nous ayons le même code génétique que les érables, les végétaux, les huîtres et les éléphants, veut dire que nous sommes parents, que nous sommes tous le produit d'une transformation d'un même ancêtre commun, que nous sommes le produit d'une évolution. Fin de la citation.
Bon, en fait, c'est le même type d'argument là, de la similarité, là, que ça impose nécessairement une vision matérialiste, une interprétation évolutionniste de l'origine des organismes. Là aussi, on transpose le même type d'argument au niveau génétique, mais finalement, ça implique que, déjà que les gens ont accepté cette version des faits comme préacquis, comme un présupposé déjà admis. Là. Fait qu'il y a déjà un acte de foi qui se fait avant d'admettre cette preuve-là, là, parce que c'est pas une preuve tant qu'on n'a pas fait l'acte de foi d'admettre, bon, ben, il peut pas avoir de créateur derrière la nature.
Qu'est-ce que tu penses de sa remarque qui dit que la similarité au niveau génétique, moléculaire, structurel, OK, là, indique soit que le créateur n'a pas été capable d'inventer autre chose ou qu'il n'y a pas de créateur puis qu'on est le produit de l'évolution. Je dis ça parce qu'il me semble que il y a d'autres possibilités que ça comme explication. Ce n'est pas les deux seules explications.
Ben, enfin, là qu'il y ait un... Ça, quand un artiste utilise une langue, là, et puis il utilise ça pour écrire de la poésie, des essais, des essais de critique politique ou des choses comme ça, bon, sur le plan humain, on est limité à une langue, et puis on utilise une langue ou un certain nombre de langues, et puis la génétique. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, là, c'est que ce code génétique-là, a pu donner à toute la variété des espèces qui nous entourent, ben déjà, c'est très flexible. Et puis, évidemment, si le créateur aurait pu créer un code génétique basé sur des molécules qui n'existent pas sur Terre, ben ça donnerait quoi? Évidemment, là, il fallait exploiter les ressources qui étaient présentes, puis bon, ça donnerait quoi de créer plusieurs codes génétiques séparés? Je ne sais pas, ce serait à Barrett de répondre à ça là, pour savoir quelle serait l'utilité d'avoir un code génétique séparé pour chaque espèce. Bon, enfin, ça c'est. Il y a peut-être un intérêt pour ça, mais ça me semble une question là, un peu oisive.
OK. Donc, il en reste seulement deux que je vais te soumettre. Alors, l'avant-dernier, l'épreuve expérimentale en laboratoire.
Oui.
Wow! Depuis environ 100 ans, on a montré en laboratoire qu'on pouvait changer plusieurs caractères mesurables des bactéries et des mouches drosophiles, par exemple. On a montré que les espèces peuvent être transformées, qu'elles ne sont pas immuables. Il en est de même des formes de bactéries qui, au cours des dernières années, sont devenues résistantes à nos antibiotiques. Bon. OK, fin de la citation.
Là, il y a deux types de phénomènes là, qui sont impliqués. Je vais prendre les bactéries, les drosophiles, là, pour lesquels ça a été très populaire après la Deuxième Guerre mondiale. Un des mécanismes là, qui est censé pousser l'évolution des espèces, c'est les mutations. Les mutations sont des changements dans le code génétique qui sont produits par toutes sortes de phénomènes, soit chimiques ou... des rayons X aussi, la radioactivité est susceptible de faire des mutations. Ça, c'est censé être le moteur de l'évolution et qui fournit de la nouveauté, qui fournit de la nouvelle information. Et puis la sélection naturelle passe derrière et élimine tout ce qui n'est pas fonctionnel. Fait que tu as la nouveauté, fait que les mutations fournissent ce qui est nouveau. Et la sélection naturelle fait un tri dans ça. Il garde ce qui est bon et puis élimine ce qui ne sert à rien. Donc, dans le cas des drosophiles, on a fait des tas d'expériences pour essayer de voir, observer l'évolution. Fait qu'on a soumis les drosophiles, c'est en anglais le fruit fly, là. C'est des petites mouches à fruits que souvent on peut avoir autour des fruits là, au marché. Puis Les drosophiles ont l'avantage de se reproduire très rapidement et puis on peut facilement en produire des quantités industrielles. Et puis on les a soumis au rayon X. Et puis on observait qu'à une certaine dose de rayon X, ça provoquait des mutations. On pouvait par exemple avoir les ailes atrophiées, le corps atrophié, les yeux atrophiés, toutes sortes d'effets un peu étranges. Là, ça donnait des souches d'organismes. Mais au bout du compte, c'était toujours des drosophiles pareils. Ça a pas changé. Les mutations qu'on a provoquées avec tant d'énergie, puis on étudiait de tellement minutieuses, ça donnait des formes de drosophiles qui perdaient des fonctions qui étaient existantes, mais ça n'en créait pas des nouvelles.
Mais est-ce que ces mutations-là étaient transmissibles?
Je pense que oui. Je me souviens pas exactement. Mais finalement, tout ce que c'est que ça donnait, c'est que ça contribuait à rien de. Chaque organisme, pour chaque espèce, a un pool génétique. Le pool génétique, c'est l'ensemble des traits qui sont disponibles dans l'ensemble des individus. Et puis, en général, comme le projet du génome humain, on a fait l'inventaire des gènes qui sont présents dans un nombre limité. Je pense qu'il y avait 6 ou 7 individus qui ont été utilisés pour le projet du génome humain. Fait qu'on a fait un genre d'inventaire des gènes qui existent. Là, on a fait un mapping là, de ces gènes-là. Mais ça ne correspond pas au pool génétique. Fait que là, le pool génétique, c'est l'ensemble des traits. Là. C'est un peu... c'est pas juste l'alphabet, là, c'est un peu comme la bibliothèque de tous les discours ou les ouvrages qu'on peut faire avec une seule langue, disons, si on mettrait ça au niveau de linguistique. Ça fait que les mutations qu'on a faites chez les drosophiles, ça n'a pas ajouté d'informations. C'est un peu comme si on prenait un ouvrage là, de philosophie ou un des œuvres de Nietzsche, par exemple, puis on arrachait des pages. On n'a pas créé quelque chose, mais on a créé un ouvrage à laquelle on a brisé on a détruit une partie de l'information, mais on n'a pas rajouté rien.
Autrement dit, tu veux dire que pour se modifier lorsqu'il y a passage d'une espèce à l'autre.
Oui.
Puis donc, les expériences des drosophiles ne modifient pas le pool génétique.
Ça n'a pas donné de nouvelles espèces qui peuvent se reproduire et puis. Ça a donné des facultés qui étaient ça a diminué ou affaibli. En général, les mutations, ça provoque des organismes qui sont même pas viables. La majorité des mutations sont létaux. Là. Les évolutionnistes l'admettent là, en général, mais pour eux, ça pose pas de problème parce que c'est sur l'ensemble, avec le processus évolutif prend beaucoup des milliards d'années.
Ouais,
donc on a le temps, on peut prendre, on espère là, que ça va donner éventuellement une mutation favorable va apparaître et puis qui va pouvoir être transmise aussi. Parce que la mutation apparaisse, c'est une chose. Qu'il soit transmis, c'est encore un autre. Fait que c'est des critères. Et puis là aussi, il faut qu'il soit utile. Avant d'être transmis, il faut qu'il soit utile. Il faut que la sélection naturelle détermine que dans l'environnement où l'organisme est, que tel trait est favorable.
Mais comment t'expliques que lui peut affirmer que depuis 100 ans, on a montré, c'est ça qu'il dit, on a montré en laboratoire qu'on pouvait changer des caractères mesurables. Autrement dit, je comprends ce que tu me dis. Autrement dit, le pool génétique n'a pas été amélioré, il n'a pas été modifié vraiment. OK? On a peut-être créé des organismes qui pouvaient se transmettre s'ils arrivaient à se reproduire, des caractères, mais amoindris.
Ouais.
Mais il n'y a pas de caractère hors du pôle génétique ancien. Bon,
dans la logique
Alors, si c'est juste ça, comment est-ce qu'il peut en arriver à dire qu'on a montré...
Oui. Dans la logique de son argument, il y a une extrapolation. Donc, il dit, si on a pu produire des petits changements, alors, on présuppose qu'on peut en produire des plus grands là, à l'échelle de changement d'espèce, à l'échelle là, d'évolution d'invertébrés à vertébrés, de reptiles à mammifères, etc. C'est de l'extrapolation, mais ça, c'est pas de l'observable.
Oui, ben c'est ça, parce qu'il a réussi à faire des changements, mais pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait des changements, comme tu dis, transmissibles et utiles, ou transmissibles et...
Ouais.
Viable, en tout cas, dans un terme général, dans un sens général, viable. OK. Donc, autrement dit, quand tu dis on a montré...
à sa satisfaction à lui, certainement, là,
okay.
Puisque, bon, il faut avoir l'intérêt de la théorie de l'évolution est explicatif. C'est de donner sens. Donc, si on a donné sens, si on a produit une explication, c'est satisfaisant. C'est pas, ça n'a pas les mêmes exigences qu'une preuve scientifique dans le contexte de l'ingénierie où est-ce qu'il faut tester des matériaux pour voir la résistance et dans le réel.
Ben, en tout cas, si on peut prendre un exemple de l'ingénierie, la théorie des poutres est prouvée des millions de fois par jour partout dans le monde, sur tous les ponts où il y a des véhicules qui se baladent c'est dans ça. Le trafic.
Ouais.
Si c'était pas vrai, ces ponts-là tomberaient, ça finirait là. Puis de même, toutes les théories sur les télécommunications ou l'électricité, c'est des milliards de preuves à chaque jour.
Ouais.
OK. Alors que est-ce qu'on peut qualifier de science au même niveau ou du même type des choses qui demeurent dans le fond des.
Non,
supposition pour une bonne part.
Oui, c'est ça. Non, les contraintes pour le sens de preuve là est pas du tout la même là qu'on peut avoir sur le plan de l'ingénierie et puis sur le plan de l'évolution. Quand on parle de preuve dans ce contexte-là de l'évolution, les contraintes sont pas du tout les mêmes là, et puis ce qui est on réclame on exploite le mot preuve à des fins beaucoup plus là de justification là de pour donner un appui un peu scientifique.
Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse là-dessus? Dans le fond, une preuve au niveau du modèle évolutionniste, c'est une preuve qui va satisfaire l'académie, excuse le terme, le club qui décide qui est un bon biologiste, qui a son doctorat, qui a son postdoc et qui va avoir le prochain prix Nobel. Alors qu'une preuve au niveau de d'autres sciences, là, on ne parlera pas seulement de l'ingénierie, il y a d'autres sciences où c'est qu'il y a des vérifications, ben c'est une preuve qui est évidente pour le commun des mortels.
Oui.
Je veux dire, quand je tourne la clé de mon automobile, ça part.
Oui.
Alors, je peux comprendre que le cycle d'auto, à quelque part, ça avait du bon sens.
Oui.
OK, alors donc, on parle de preuves dans les deux cas, sauf que c'est...
Les exigences ne sont pas les mêmes.
C'est ça. Puis, ils ne sont pas constatables non plus par le même groupe de personnes.
Non, c'est ça. On parlait tantôt aussi des organismes biologiques. Là, il y avait un autre aspect que Barrett avait soulevé là, pour les, par exemple, la résistance des bactéries aux antibiotiques, là, qui est communément là, exploitée dans les médias comme encore une preuve de l'évolution. Et puis bon, on a constaté, ce qui est empirique, ce qui est observable, c'est que les antibiotiques ont été développés un peu juste un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale et puis ont été industrialisés par la suite là, à grande échelle. Là. Et puis, on a initialement, les premières applications d'antibiotiques, ça tuait, c'était un succès à 100%, ça tuait tout, c'était une réussite. Et puis, avec le passage du temps, on constatait que les antibiotiques n'avaient pas toujours aussi efficaces. Et puis que, bon, il y avait des souches de bactéries, finalement, qui étaient on dit, entre guillemets, devenaient résistants. Et puis, mais qu'en est-il, là? Parce que là, c'est évidemment, il y a des bactéries qui sont résistantes à certaines formes d'antibiotiques, et puis il faut développer d'autres antibiotiques pour pouvoir les contrôler. Mais si on revient aussi sur la notion de pool génétique, qu'en est-il? Finalement, on fait croire, ces exemples-là, en général, sont exploités en nous faisant croire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est apparu. Et puis, dans les faits, finalement, c'est que les bactéries résistantes ont toujours existé dans la nature, et puis même on fait des expériences à ce niveau-là, chez des bactéries qui n'ont pas été exposées aux antibiotiques, et puis on constate que la résistance existe. C'est quelque chose dans le pool génétique des bactéries. En général, c'est des bactéries qui sont moins dominantes, qui ne sont pas prédominantes pour toutes sortes de raisons.
Autrement dit, il n'aurait pas été détecté durant les premiers tests où on pensait qu'il y avait 100% de réussite, mais ils finissent par se manifester à l'usage.
C'est ça.
Avec le temps.
Avec surtout avec l'exploitation à très grande échelle des antibiotiques, on a fini par faire apparaître ces bactéries-là, qui étaient toujours présentes dans le fond, mais il n'y a pas de nouveauté là. C'est pas un exemple de légitime d'évolution. Finalement, parce que c'est des organismes qui étaient là, puis finalement, c'est un peu encore une manifestation plus de notre ignorance, de dire, bon, ben, on savait pas que ça, les bactéries pouvaient avoir ce comportement-là, cette réaction-là de résistance aux antibiotiques. Donc, l'explication initiale facile là, dans le contexte évolutionniste de dire ah ben c'est de l'évolution, les bactéries qui n'avaient pas la résistance aux antibiotiques en ont maintenant. Donc l'évolution est prouvée. Mais finalement, si on regarde ça de façon, on déconstruit un peu tout ça, puis on regarde sous le tapis, finalement on constate que bon, non, il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est juste que la proportion de la population des bactéries résistantes est modifiée à cause de l'intervention de l'utilisation industrielle des antibiotiques.
OK. Une dernière, la dernière évidence là, qu'il propose pour le modèle évolutionniste, c'est la distribution géographique des espèces. Il dit que cette distribution-là est révélatrice de leur histoire. Ainsi, les espèces de plantes et d'animaux qui ressemblent le plus à celles des îles Galapagos sont des espèces vivant en Équateur. La terre ferme la plus proche, à environ 1000 km. Cette distribution géographique suggère fortement que des espèces de l'Équateur ont émigré jusqu'au Galapagos et s'y sont transformées sous des conditions légèrement différentes. Pour lui, la distribution géographique est une preuve de l'évolution.
Bon, enfin, je sais pas, ça me semble pas une preuve très forte, là. Bon, évidemment, dans peu importe le contexte, manière de concevoir les origines, la question là, du déplacement des organismes va se poser.
Il donne un autre élément ici, là, je peux le reprendre, excuse, peut-être ça va être plus clair. Si toutes les espèces avaient été créées indépendamment les unes des autres, alors pourquoi le Créateur aurait-il placé tous les marsupiaux en Australie et aucun en Afrique?
Bon, enfin, là, il y a des patterns de migration, là, évidemment. Là, les marsupiaux supportent peut-être un peu moins bien la prédation, puis qui ont pu se déplacer, là. Il y a probablement des aléas, là. Bon, dans le contexte créationniste, par exemple, si on va se référer à ce contexte-là, à cette perspective-là, les organismes présents qu'on voit sur la Terre se sont distribués suite au déluge. Toutes les anciennes civilisations, ce qui est un. Puis le récit biblique nous dit que l'arche de Noé serait. Qui serait atterri, là, ou en tout cas arrivé là, dans les monts Ararat, en Turquie. Et puis on constate là, que bon, toutes les civilisations les plus anciennes de la Terre commencent dans ce secteur-là, tout proche, tout proche. Et puis, bon, il y a la migration là, a pu se faire là, à partir de là. Et puis, bon, évidemment, les animaux aussi, là, les scénarios, on peut imaginer là, les scénarios pour la migration des animaux. Là, j'avoue que c'est pas un point sur lequel j'ai porté beaucoup d'intérêt, fait que j'aurais des spéculations beaucoup plus gratuites là, que d'autres qui ont réfléchi à cette question-là. Là, mais normalement, ce serait suite au déluge là, que les animaux se seraient répartis. Et puis bon, étant donné que c'est des animaux sauvages, on ne peut pas prévoir nécessairement où que les organismes vont. Les ancêtres des marsupiaux se sont peut-être sont partis vers l'Australie. Et puis après ça, l'isolement du continent a pu faire là, qu'ils ont resté là puis qu'ils se sont développés.
Là, tu parles de la dérive des continents.
C'est ça.
T'inclus la dérive. Tu vois oui. Pas une opposition entre le créationnisme
ou
l'intelligent design et la question de la dérive des continents, sauf que ça serait produit dans un passé plus récent.
Oui, plus récent, exactement. Okay. Et puis, de toute façon, il n'y a rien qui empêche que les marsupiaux ont pu immigrer à beaucoup d'autres continents et puis seulement que la compétition, les prédateurs ont pu les humilier ailleurs.
Fait que si on prend un cas inverse, les fameux perce-oreilles qui nous envahissent et qui n'ont pas de prédateurs ici,
n'existaient
pas, puis ils arrivent ici puis ils font la loi.
C'est ça.
Alors, on en retrouve beaucoup ici, alors qu'à d'autres endroits où il va y avoir des prédateurs,
on a introduit en Australie, au 19e siècle, là, les fameux lapins qui ont envahi totalement l'environnement, qui n'avaient pas de prédateurs, puis finalement, en tout cas, on a dû contrôler de façon drastique. Là.
Parce qu'ils ont fait un désert avec l'Australie.
Oui, c'est ça. Fait que... Ça, il y a des aléas. On peut imaginer toutes sortes de scénarios. Et puis, bon, ça aussi, on peut pas vraiment... on peut explorer un peu les données qu'on a visibles. Et puis, on peut tenter d'extrapoler dans le passé, mais il y a toujours un aspect spéculatif dans ça qu'on peut pas éliminer, là. que ce soit dans un contexte matérialiste, évolutionniste, ou dans un contexte intelligent design, ou encore créationniste, là. Et puis, c'est pas, ces spéculations sont pas plus farfelues ou plus rationnelles dans un contexte ou un autre, là.
Il nous reste pas beaucoup de temps, mais en tout cas, mais on va s'en reprendre sûrement, Paul.
Oui.
Mais j'aimerais ça que terminer un peu en me donnant l'occasion de commenter un peu peut-être quelque chose qui est en tout cas une certaine évidence. C'est que bon, tu te retrouves à quoi dans la quarantaine, là, t'approches de la cinquantaine tranquillement.
Mm-hmm.
OK. T'as connu une conversion là,
au
Seigneur, une consécration là, à l'âge de 17 ans, 18 ans, quelque chose comme ça.
Okay, exactement. Bon.
Alors, dans un monde, le monde des années 70, etc., puis tu as fait une carrière universitaire, puis tu as poursuivi beaucoup de travaux de recherche. Tu es en train d'écrire ton deuxième livre et presque ton troisième livre ou quatrième livre, d'après ce qu'on disait. Il y a peut-être moyen de faire trois tomes avec celui que tu écris. Bref, tu as vécu pas mal de choses. Et puis, tu es un chrétien depuis 75. OK. Un chrétien engagé depuis 75. Qu'est-ce qui fait que tu es encore un chrétien, malgré tous les concepts que tu as pris quand même soin de brasser durant ces années-là, d'affronter, OK, au niveau scientifique, au niveau idéologique, au niveau... On peut pas dire là, que tu baignes dans la naïveté, là. Je veux dire, tu as vu bien des choses, puis même au niveau des églises, on n'en a pas parlé, là, mais tu as eu quelques critiques aussi. Je veux dire, tu prends pas tout ce qui se passe dans les évangéliques pour une perfection non plus. Là.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui fait que tu es encore chrétien? Qu'est-ce qui fait que ça a encore du sens pour toi? Est-ce qu'il y a des choses essentielles que tu retires de toutes ces années-là qui font que, oui, le Seigneur a encore du sens, la Bible a encore du sens, ta relation avec Dieu est encore primordiale?
Rapidement, là, je dirais que c'est l'interprétation la plus cohérente qui explique le mieux le réel. Ça, c'est vite dit, c'est facilement dit, là, mais bon, il faut donner un peu d'arrière-plan, là. Quand je suis devenu, quand je me suis converti, quand je suis devenu un chrétien né de nouveau dans les années 75, on avait souvent une façon d'apporter l'Évangile puis d'emmener inviter les gens à venir à suivre Jésus sur une base un peu... on avait un packaging un peu positif. En autre mot, viens à Jésus, Jésus va te bénir, Jésus va donner un sens à ta vie, Jésus va améliorer ta situation sur le plan relationnel,